France Culture, l'esprit d'ouverture.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Pour cette dernière semaine de la saison avant la grille d'été, nous vous proposons une série consacrée au tourisme et aux loisirs de l'extrême, de l'hubris. Celui qui nous pousse vers des contrées toujours plus lointaines, qui nous contraint aussi à repousser nos propres limites. Nous parlerons de l'incroyable force d'attraction des pôles qui attire de plus en plus de curieux, mais aussi de l'alpinisme et de cette nouvelle passion pour les sommets himalayens. Nous irons également en pleine mer pour comprendre le phénomène de la croisière, mais aussi sur la terre ferme pour évoquer celui des parcs d'attractions.
Culture Monde, le magazine sans frontières, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr. France Culture, 6h-7h, les petits matins. Tout de suite, les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Voici le plus important revers électoral du président turc Recep Tayyip Erdogan depuis 17 ans. Son parti, l'AKP, et le candidat qu'il soutenait a perdu hier les élections municipales d'Istanbul. Organisées pour la deuxième fois en moins de deux mois, le scrutin a été remporté par le candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu. Il obtient 54% des voix contre 45% pour le candidat du pouvoir, l'ancien premier ministre Binali Yildirim. Cette victoire est encore plus ferme que celle de mars dernier, qui avait été invalidé, je vous le rappelle, par les autorités turques sous la pression de l'AKP. L'AKP qui avait déjà perdu la capitale Ankara il y a deux mois après 25 ans d'hégémonie des islamo-conservateurs. Une manifestation gigantesque en République tchèque. 250 000 personnes se sont réunies hier à Prague. Elles ont réclamé la démission du Premier ministre Andrej Babiš, soupçonné de fraude aux subventions européennes pour son enrichissement personnel. Le pays n'avait pas connu une telle mobilisation depuis la révolution de velours qui avait fait tomber le communisme en 1989. En Géorgie également, l'heure est à la manifestation, au rassemblement en ce moment. Pour le quatrième jour consécutif, des milliers de personnes sont descendues dans les rues ce dimanche à Tbilissi. Elles se sont retrouvées devant le Parlement du pays pour dénoncer les tentatives d'influence russe. À l'origine de la mobilisation, l'intervention d'un député russe au Parlement géorgien, c'était jeudi dernier. Les tensions entre la Géorgie et la Russie sont fortes toujours depuis la guerre de 2008. Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Marseille pour un dîner privé en compagnie d'acteurs locaux. Il a certainement été question des élections municipales. Aujourd'hui, il va participer à la clôture du sommet méditerranéen dit des deux rives. Ministres et représentants de la société civile de 10 pays de la Méditerranée vont s'y retrouver. L'idée est de lancer une dynamique de coopération sur les thèmes notamment de la jeunesse, de l'écologie et du numérique. Et puis notons en France cette colère sur le front social. Après les urgences, les pompiers se mobilisent. 7 syndicats ont déposé un préavis de grève qui pourrait débuter mercredi jusqu'au 31 août. Ils demandent le retrait du projet de loi de transformation de la fonction publique ainsi qu'une revalorisation d'une prime et davantage d'effectifs.
France Culture présente Rouge, art et utopie au pays des Soviets, au Grand Palais. Comment le projet de société communiste a-t-il engendré des formes d'art spécifiques ? À travers un parcours chronologique, découvrez les répercussions de la révolution d'octobre 1917, véritable bouleversement social sur la création artistique. Peinture, sculpture, architecture, photographie, cinéma, en s'appuyant sur près de 400 œuvres, l'exposition montre la manière dont les arts ont accompagné l'édification du socialisme. Rouge, art et utopie au pays des Soviets, jusqu'au 1er juillet au Grand Palais à Paris. Un partenariat France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Le livre que je vous propose d'emporter avec vous cet été est un recueil de nouvelles de femmes afghanes. Vous le trouverez que dans de bonnes librairies, sous le ciel de Kaboul, et le titre de cet ouvrage édité par Le Soupirail. Et ce matin, dans le réveil culturel, je reçois la traductrice de ces histoires, contes et fables écrites en persan, Rojesta Ebrahimi.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
12 nouvelles écrites par des femmes afghanes qui nous invitent dans leur vécu subi qui nous font partager aussi leurs rêves. Entre les bruits de la guerre et les silences des amours meurtris, 12 nouvelles où les femmes sont des captives, des eaux dormantes, et où les hommes sont tout aussi victimes. Avec ces histoires racontées par des femmes, on traverse le pays, on pénètre dans les maisons afghanes, on accompagne jusqu'à leur destin tragique des jeunes garçons enrôlés dans l'armée, on entend les loups, on attend le retour des fées. Jalalabad, Kaboul, au milieu du désert, là-bas, à la frontière avec l'Iran, partout dans ce pays, partout dans ces montagnes majestueuses, il y a des histoires qui se passent dans toutes les saisons de l'année, des saisons extrêmes. L'Afghanistan, quand la neige tombe drue, quand les flocons de neige vagabondent dans l'air, quand les bombes font trembler la terre, quand les étés caniculaires s'éternisent. 12 nouvelles d'Afghanistan, un pays oublié dans les ruines des guerres sans fin, sans gloire. 12 nouvelles où les victimes invisibles deviennent des héroïnes humaines. Sous le ciel de Kaboul est édité par le Soupirail. Bonjour Roger Staïbrahimi.
Bonjour.
Alors à l'origine, ces nouvelles sont écrites en persan.
Tout à fait, oui. À l'origine, ces 12 nouvelles ont été écrites en persan d'Afghanistan.
Pourquoi vous précisez persan d'Afghanistan ?
Parce que le persan est parlé en Iran, en Afghanistan et au Tadjikistan. Donc lorsque l'on parle en persan en France, on a tendance à penser à l'Iran et non pas à l'Afghanistan. Donc je souligne que c'est écrit en persan d'Afghanistan pour probablement faire un petit rappel historique que l'Afghanistan est également un pays persanophone.
Et vous-même, vous êtes afghane ou...
Je suis d'origine afghane, oui.
Ces nouvelles ont-elles été éditées en Afghanistan ?
Tout était déjà édité en Afghanistan.
Donc première bonne nouvelle, il y a des livres, il y a des éditeurs à Kaboul.
Bien sûr, bien sûr. Et il y a plusieurs même éditeurs et on a sélectionné évidemment 12 nouvelles à partir d'un recueil que j'ai ici donc écrit en persan et puis d'autres qui nous sont arrivés à partir de d'autres recueils. Donc oui, on a des éditeurs, on a des libraires et on a des livres et on a des femmes qui écrivent.
Je vous dis ça parce que vous rendez hommage, vous remerciez Atik Rahimi qui est l'écrivain le plus connu ici en France et je me suis posé la question, est-ce que c'était plutôt des nouvelles paru dans des revues ou dans des livres, mais là, vous répondez à la question que Gesta Ibrahimi, c'est dans des livres.
Oui, tout à fait. On a tenu à remercier Atik Rahimi, puisque lui était à l'origine de ce projet avec l'éditeur afghan, Mohamed Hossein Mohammadi, et également le directeur d'une collection de Le Soupirail, l'or bleu, donc Mahmoud Chokrolaï, et bien sûr... Madame Moisan qui a eu l'audace de prendre l'initiative de publier le premier recueil des nouvelles de femmes afghanes puisque c'est le premier.
Parlons un peu de la littérature afghane parce que est-ce que la poésie est prédominante comme par exemple en Iran dans les pays arabes ou est-ce que la fiction, la littérature a une place dans les librairies d'Afghanistan?
Probablement le point en commun entre la littérature persane d'Iran et l'Afghanistan, c'est justement la littérature classique qui est un champ dominé par la poésie. Et puis la naissance de la prose au début du XXe siècle, ça commence plus ou moins à la même période dans les deux pays. Après, le trajet historique de chaque pays est différent, ce qui fait que la prose persane d'Afghanistan n'a pas le même destin. Donc les deux partagent la même langue, le persan, et puis l'univers, l'imaginaire est complètement différent. Malheureusement pour l'Afghanistan, c'est la guerre, mais ce n'est pas que la guerre, puisque vous avez lu les nouvelles.
Il y a autre chose, effectivement, même si c'est assez sombre, on peut le dire, sous le ciel de Kaboul.
C'est assez sombre, oui, jusqu'à un certain point, parce que si on met de côté la poésie des textes, oui, on peut dire que c'est assez sombre, puisque jusqu'à aujourd'hui, hélas, l'histoire est sombre dans ce pays. Chaque jour, on entend parler des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Donc forcément, un écrivain est imprégné par la vie dans la société, donc oui.
Qui sont ces femmes écrivaines, Rojesta Ibrahimi ? Parce que j'ai vu qu'elles étaient de générations très différentes.
Oui, hein. Oui.
Certaines sont nées dans les années 50, d'autres 60, 70, 80, jusqu'à la... Donc il y a plusieurs générations, en fait, d'écrivaines dans ce recueil, sous le ciel de Kaboul.
Oui, tout à fait. En fait, depuis le début du XXe siècle, on a, aux côtés des hommes, des femmes qui ont commencé également à écrire. Et puis, forcément, par rapport à la situation sociale, elles n'ont pas eu la même possibilité de s'investir grandir dans le monde des livres. Et puis, comme vous l'avez souligné, à chaque génération, on a des écrivains qui ont quand même réussi à créer quelque chose. Donc, ces femmes sont des écrivains qui ont écrit plusieurs recueils de nouvelles, voire des romans, et qui font partie de ce qui pourrait devenir un jour la littérature classique persane d'Afghanistan, côté prose, parce que la poésie, c'est un partage entre l'ensemble de la civilisation persane.
Alors quand vous dites ça, on a l'impression que le Soupirail, qui est une jeune maison d'édition, en nous proposant ces nouvelles de femmes afghanes, nous prépare à découvrir une littérature afghane, puisque ces femmes, vous nous dites, elles n'ont pas écrit que ces nouvelles, elles ont écrit pour certaines d'entre elles, si je vous ai bien compris, Rojesta Ibrahimi, des romans.
Tout à fait. En fait, comme je vous ai dit, ça c'est le premier recueil de nouvelles des femmes afghanes en France.
Comme une carte de visite de cette.
Comme une carte de visite, et on espère que ça continue, bien sûr, par la suite pour avoir d'autres recueils des hommes et pourquoi pas s'intéresser ensuite aux romans, parce que l'Afghanistan, hélas, a fait partie de l'imaginaire international. Le nom de ce pays à chaque fois évoque la guerre, mais on oublie souvent que à côté de la guerre, il y a autre chose, surtout la parole des femmes.
Et surtout cette parole des femmes qui est effectivement prédominante. La plupart des nouvelles d'ailleurs, ce sont des voix féminines qui s'adressent directement à nous.
Oui, tout à fait.
Parlez-nous de ces autres. Autrice, puisqu'on peut dire maintenant autrice.
J'ai eu la chance, en fait, à travers notre éditeur afghan et aussi maintenant avec tout ce qui est nouvelles technologies, de les avoir au téléphone, pas toutes, d'échanger avec elles, de parler de leur univers, de parler également à chaque fois de la nouvelle que l'on avait sélectionnée pour le recueil. Donc, ce sont des femmes, en fait, qui ont décidé justement de ne pas laisser le champ libre à ce que jusqu'à l'éternité, ce soit les hommes qui décident à leur place de parler à leur nom et de parler de ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, de la vie et aussi de la guerre subie par les femmes, parce que la situation d'Afghanistan fait que ce sont les femmes qui ont payé le prix cher. Plus que les hommes.
Et là, on a à peu près toutes les régions d'Afghanistan réunies dans ce recueil de nouvelles sous le ciel de Kaboul. Est-ce que ces auteurs, ces autrices afghanes sont influencées par une culture orale afghane? Parce que il y a des textes qui ressemblent à des fables, d'autres qui sont plutôt dans le suspense, dans une littérature plus universelle. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là? C'est-à-dire comment passer d'une culture, je suppose, orale, du conte, de la fable à de l'écrit.
Je pense qu'en fait, l'ensemble des écrivains afghans, que ce soit des hommes et des femmes, sont influencés à la fois par la tradition orale, qui est très très forte, et puis aussi par la littérature classique, à savoir de la poésie, parce que autrefois, même lorsque les gens ne savaient ni lire ni écrire, savaient réciter de la poésie par cœur. Donc forcément, même la poésie s'était faufilée à devenir une sorte de tradition orale. Donc oui.
Par exemple ?
Par exemple, dans Bibi Khamiri, qui est une nouvelle d'une jeune femme qui a déjà publié plusieurs romans et nouvelles, elle s'est intéressée à la période soviétique de l'Afghanistan lorsqu'il y a eu l'invasion russe. Dans Dame Khamiri, la poupée confidente, on a justement cette tradition orale où on a une sorte de Sherazade qui raconte ses douleurs à cette poupée qui doit à la fois l'entendre mais aussi être là pour une sorte de témoin, certes impuissante puisque elle ne peut pas changer le cours de dessin de cette femme, mais elle est là à entendre, et c'est ce qu'on a assez souvent dans la tradition orale.
C'est une des plus longues nouvelles d'ailleurs de ce recueil. Elle est signée par Omaira Kaderi. Qui est Omaira Kaderi, vous qui avez traduit toutes ces nouvelles, Rojesta Ibrahimi?
Omaira Kaderi est une femme qui a commencé à écrire de manière clandestine lorsque les talibans étaient encore à Kaboul. Et puis ensuite, elle a fait ses études en Iran. Et son premier recueil a eu un prix littéraire dans ce pays, ce qui fait que même aujourd'hui, les Iraniens aussi s'intéressent beaucoup à cette littérature afghane contemporaine. Et Elle a écrit 2-3 romans et plusieurs recueils de nouvelles.
Et s'il fallait parler de son univers, elle reste justement dans cet univers qui fait appel au conte, à la légende, tout en étant ancrée dans la réalité, dans le réel, dans le présent.
Alors, c'est une femme féministe, donc elle défend déjà dans ses textes, mais aussi dans sa vie de tous les jours, elle défend le droit des femmes. Et puis, l'originalité peut-être de Omaira Khaderi, c'est qu'elle est originaire de Herat, donc... une ville qui se trouve à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran. Et son persan à elle, c'est justement le persan de Herat qui est encore un petit peu différent du persan de Kaboul, le standard, je dirais. Donc elle nous fait entrer à la fois dans l'imaginaire des contes, de l'oralité, mais aussi le parler de Herat qui est assez agréable à lire et à entendre.
Ils sont très différents, les persans, suivant les régions, suivant les pays?
En fait, on a gardé en Afghanistan le persan de Kaboul comme le persan standard. En Iran, c'est le parler de Téhéran. Mais ensuite, il y a autant de différences entre le parler de Téhéran que de sud d'Iran ou de nord d'Iran que de...
Par exemple, quel genre de différence mettez-vous, par exemple,
Rojesta? Déjà, l'accent est différent.
Vous qui êtes en France depuis 2003, Rojesta, oui. Ibrahimi, on peut dire que c'est à peu près comme le français belge et le français de France, le français des Suisses et le français québécois.
Voilà. Tout à fait. Par exemple, lorsqu'on parle... Après, par moments, l'écart est un petit peu plus prononcé. Par exemple, quelqu'un qui parle français dans le sud de la France ne parle pas forcément tout à fait le français de Paris.
Oui, mais ça s'écrit de la même manière.
Oui, l'écriture, ça ne change pas. De toute façon, on a le même alphabet, on a la même écriture. Mais après, il y a des mots qui peuvent être différents pour désigner le même objet ou la même chose, on utilise un autre mot, ou les tournures de phrases, on tourne différemment les phrases.
Mais vous voulez dire que Homaira Khaderi était féministe, c'est pas le cas pour les autres auteurs?
Si, tout à fait, mais en fait, le fait qu'elle a pu justement, après 2001, elle a eu un poste dans l'enseignement, donc le fait de pouvoir travailler permet justement aux femmes d'être à la fois actives dans les textes, parce que ça, dans les textes, cela reste théorique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc elle a eu cette possibilité d'enseigner et de défendre dans la vie de tous les jours le droit des femmes.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Dans ce recueil de nouvelles sous le ciel de Kaboul, des nouvelles de femmes afghanes éditées par le Soupirail, on est partout dans le pays, Rojesta Ebrahimi, vous qui avez traduit ces nouvelles, on est partout en Afghanistan, mais même au-delà de l'Afghanistan. D'ailleurs, dans une nouvelle, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, puisqu'il disait « Il y a une frontière, mais au-delà de la frontière, la misère continue ». Et une des nouvelles, numéro 13, parle du sort réservé aux réfugiés afghans en Iran.
Tout à fait. Alors, le numéro 13 a été écrit par une écrivaine qui est également psychologue. Et lorsque je l'ai eu au téléphone, bien sûr, c'est un texte littéraire, mais elle m'a dit que c'était inspiré d'une histoire vraie.
Elle est un peu glaçante, cette histoire vraie, hein, parce qu'on peut dire que ça commence dans une morgue.
Tout à fait. C'est une histoire glaçante, mais en fait, face à la réalité vécue par une génération de réfugiés afghans en Iran, c'est rien. Parce que lorsque vous imaginez, on était, d'après les chiffres donnés par le gouvernement iranien, on était plus de 3 millions.
Et vous en avez fait partie, hein. Vous avez fait partie de ces réfugiés, Rojesta Ebrahimi.
Oui, j'ai vécu 7 ans en Iran, dont 5 ans en tant que réfugié sans papier. Donc, dans ce pays, cela signifie qu'on n'a aucun droit et surtout même pas le droit de pouvoir aller à l'école. Donc, cette nouvelle qui parle justement de cette question identitaire, le fait d'être réfugié, de ne pas avoir la possibilité d'aller travailler comme tout le monde, d'aller vivre comme tout le monde. Donc c'est le récit d'une femme qui un jour, elle est inquiète pour son mari qui doit partir travailler. Elle est là en train de se dire, il doit prendre sa carte d'identité, ne pas le prendre. Peut-être que les policiers vont l'arrêter, peut-être qu'il sera conduit à la frontière, et c'est ce qui fait qu'elle se fait renverser par une voiture. Et lorsqu'elle est justement à la morgue, et c'est à ce moment-là qu'elle nous raconte, sans nous inviter à tomber dans une sorte de pathos, une petite partie de la réalité des réfugiés afghans, ce qui permet une sorte de comparaison avec ce qu'on a fait autrefois durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale avec les juifs, de les transformer en chiffres. Donc jusqu'à la fin de cette nouvelle, cette femme n'a pas de nom, n'a pas de prénom, elle est juste le numéro 13.
Et c'est vraiment écrit comme une nouvelle de Kafka, c'est assez kafkaïen d'ailleurs, s'il fallait trouver un mot, c'est assez kafkaïen. Qui est cette Batul Haydari, en espérant que je prononce bien son nom?
Oui, Batul Haydari, comme je vous l'ai dit, c'est une psychologue de formation qui écrit également, et je pense qu'en fait, elle est, d'après ce qu'elle m'a dit, elle est passionnée du monde intérieur des femmes quand elle échange avec elles. Et comme Omer Khadiri, elle aussi, elle est engagée sur les réseaux sociaux. On voit qu'elle est active presque tous les jours. Elle publie quelque chose en relation avec la situation des femmes afghanes. Donc, on a choisi cette nouvelle pour le recueil parce que dans l'ensemble des nouvelles, on voulait que le personnage principal de chaque récit puisse être une femme. On voulait également que ça décrive l'univers des femmes afghanes et aussi ne pas tomber de côté cette question quelque part de la guerre sans vraiment parler que de la guerre.
Il y a aussi tout ce pays, l'Afghanistan, si peu connu en réalité, qui est décrit à travers ces 12 nouvelles de femmes afghanes. Et puis il y a aussi des faits. Alors là, je me suis posé la question, est-ce que c'est de l'ordre de l'imaginaire d'une de ces écrivaines, ou ça fait partie de l'ensemble de ces contes et légendes d'Afghanistan?
Les faits font partie des contes et des légendes et de la tradition orale. Donc on a d'autres récits qui parlent de l'existence des fées qui arrivent dans nos rêves et qui nous parlent. Et dans cette nouvelle, trois fées, donc
la plus sensuelle de toutes les nouvelles, sous le ciel de Kaboul. On laissera les lecteurs découvrir eux-mêmes ce beau texte.
Donc justement, l'auteur de les trois fées a utilisé cette tradition orale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et pour en faire un récit qui mélange à la fois la réalité, mais aussi un monde imaginaire, à la fois lié aux traditions orales, mais aussi lié à la psychologie d'un petit garçon qui est à la recherche de sa mère.
Rojesta Ebrahimi, est-ce que vous allez en Afghanistan depuis votre exil?
Oui, je suis allée en Afghanistan, je suis allée également en Iran.
Alors parlons de l'Afghanistan, oui. Hein, à l'occasion de la sortie de Sous le ciel de Kaboul, à quoi ressemble une librairie à Kaboul?
Je pense qu'en fait, depuis 2001, On a une production littéraire qui est vraiment énorme. Donc, les librairies actuellement sont pleines de livres. Et surtout, la jeune génération, à la fois les écrivains, mais aussi les lecteurs, sont passionnés de la prose qui, autrefois, avait la place qui était autrefois occupée par la poésie. Et,
mais c'est quoi? Ce sont des auteurs afghans qui sont vendus dans des librairies afghanes, ou on trouve aussi des auteurs iraniens, ou toute la littérature du monde est présente via les traductions, ou sans les traductions d'ailleurs un peu?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Iraniens ont commencé à découvrir la littérature persane d'Afghanistan assez tard. Je pense que il y a plusieurs raisons historiques qui font que, de même que par exemple en France, si vous cherchez des livres sur l'Afghanistan, il y en a des centaines et des centaines, mais si vous cherchez des livres sur la littérature persane d'Afghanistan, vous n'avez pas grand-chose. Donc l'Iran non plus n'était pas un pays dans lequel on lisait de la littérature persane d'Afghanistan. Aujourd'hui, les lecteurs afghans lisent de la littérature iranienne, mais ils l'ont lu dans le passé aussi. Donc les Afghans, au contraire,
donc
des Iraniens...
Donc on peut trouver ça dans des librairies de Kaboul,
tout à fait, tout à fait.
De
Jalalabad. Il y a même des auteurs iraniens qui sont censurés dans leur pays et qui peuvent être édités et publiés en Afghanistan. Et puis, moi je suis originaire de Kaboul, donc quand j'y vais, je vais à Kaboul. Et aussi, la nouvelle génération sont des lecteurs aussi à la fois des textes traduits en persan, des langues étrangères, français, anglais ou autres, mais aussi beaucoup d'autodidactes qui ont appris des langues étrangères et qui lisent dans la langue d'origine.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver Zola, Houellebecq, Atik Razimi.
Zola était un des premiers qui a été traduit en persan. Donc il y a Zola, mais il y a plus en fait une domination par des auteurs russes et de l'Amérique latine.
Et ils sont traduits où ça? Plutôt à Téhéran ou en Afghanistan, à Kaboul?
Plutôt à Téhéran qu'en Afghanistan, parce que dès qu'un livre est publié dans le monde occidental, et surtout lorsqu'il a du succès, assez vite le livre est publié en Iran. Donc étant donné que c'est la même langue, donc le livre arrive assez vite en Afghanistan, donc il n'y a pas ce besoin de traduire.
Qu'est-ce que j'aimerais bien aller dans une librairie à Kaboul, Roger Steibrahim?
Je vais essayer de vous envoyer une photo.
mais quand on rentre dans une librairie, la place réservée à la fiction, aux nouvelles, à la poésie, est-elle la même que celle réservée aux livres de cuisine, aux livres de religion, aux livres scolaires? Comment se présente une librairie à Kaboul? Quelle est votre librairie préférée à Kaboul? Comment elle s'appelle, tiens?
Alors, il y a une édition qui est également
librairie
et qui est au nom d'un auteur afghan contemporain qui a traversé d'autres générations. Monsieur Zaryab, qui écrit à Kaboul et qui a écrit depuis très longtemps. Son épouse, qui est connue des lecteurs français.
Déjà, ça s'appelait Zaryab.
Oui, son épouse, Spojmay Zaryab, est connue des lecteurs français parce qu'elle a été traduite en français. Donc, j'aime bien cet endroit où on trouve des livres axés plus sur la littérature. Mais ailleurs, c'est pas aussi bien rangé, on va dire, qu'en France, parce que la différence que l'on accorde ici à chaque catégorie, là-bas, on n'est pas trop dans catégorisation, donc c'est peut-être un peu en mélange la littérature d'Amérique latine et la littérature française, mais voilà, l'essentiel, c'est que lorsqu'on cherche, on les trouve.
Sous le ciel de Kaboul, ces 12 nouvelles de femmes afghanes, c'est le livre qu'on vous recommande vivement pour votre été. C'est édité par Le Soupirail. Merci à la traductrice de ces nouvelles d'être venue nous en parler. Merci, Rojesta Ibrahimi.
Merci à vous de m'avoir invité.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le DVD du film Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi. Dans une grande villa de la Côte d'Azur, Anna retrouve sa famille pour les vacances.
Il arrive quand, Luca ?
Il arrive ce week-end.
Au milieu de l'effervescence, Anna doit gérer sa récente rupture. Peu à peu, des rapports de force et de désir vont ébranler l'harmonie fragile qui règne dans la villa.
Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison.
DVD du film Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi, actuellement disponible, un partenariat France Culture. Tornera. 10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail. C'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le président turc Erdogan félicite le candidat de l'opposition pour sa victoire à Istanbul. Il concède par là même sa plus forte défaite depuis 17 ans. Nous revivrons la soirée électorale en Turquie dans un instant. Nous nous pencherons aussi sur le sommet des deux rives organisé à Marseille par Emmanuel Macron. Il souhaite voir 10 pays de bord de Méditerranée coopérer sur des questions sociales et culturelles. Rien en revanche lors de cette réunion sur les questions migratoires. Dans cette édition, nous reviendrons sur le naufrage d'une embarcation en Méditerranée, c'était en 2013. 268 personnes étaient mortes. Le procès d'officiers italiens débute aujourd'hui. Et puis, comment les hôpitaux s'organisent-ils à l'aube d'une canicule qui va toucher les trois quarts de la France cette semaine? Réponse en reportage dans moins de 10 minutes. Le nouveau maire d'Istanbul s'appelle donc Ekrem İmamoğlu. Il avait déjà remporté le scrutin lors de municipales en mars dernier, mais avec une très faible avance. Le parti au pouvoir du président Erdogan avait annulé l'élection. Peine perdue, puisque la victoire d'İmamoğlu hier est éclatante. Il devance son adversaire de moins 700 000 voix. Une victoire qui est surtout une cuisante défaite pour les islamo-conservateurs du président Recep Tayyip Erdogan, la première du genre en Turquie. Retour sur la soirée avec notre envoyé spécial, Eric Biegela.
Il était 19h15 hier soir. Les bureaux de vote avaient fermé leurs portes depuis 1h30 à peine quand le candidat du pouvoir, Binali Yildirim, s'est adressé à la presse depuis le QG du parti à Istanbul. Une allocution de 3 minutes à peine pour reconnaître sa défaite.
Selon les résultats non encore officiels, mon adversaire Ekrem İmamoğlu est en tête. Je le félicite et je lui souhaite une belle réussite. Les élections sont synonymes de démocratie et avec cette élection, la Turquie a prouvé une fois de plus que sa démocratie est sans faille.
Devant le siège de l'AKP, le parti du président, quelques militants excités parlaient encore d'en découdre physiquement avec ce traître d'İmamoğlu, cet allié des terroristes, comme il l'appelait, qu'il fallait éliminer. Mais dans l'ensemble, le camp du pouvoir a, semble-t-il, accepté sa défaite. D'ailleurs, quelques dizaines de minutes plus tard, le président Erdogan lui-même reconnaissait la défaite de son poulain et félicitait même, dans un tweet, le nouveau maire du Grand Istanbul. La victoire d'İmamoğlu hier est surtout la plus grande défaite électorale qu'ait connue le président Erdogan depuis 20 ans.
Et après ces municipales à Istanbul, le ressort de l'AKP est-il cassé? Question que posera Xavier Martinet à son invité dans les enjeux internationaux à 6h45 après ce journal. Donald Trump joue l'apaisement. Il assure qu'il ne voulait pas d'une confrontation armée avec Téhéran. « Je ne cherche pas la guerre », assure le président américain dans une interview diffusée hier soir. Il dit penser que les Iraniens veulent maintenant négocier, alors qu'aujourd'hui doivent entrer en vigueur de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran. Il s'y était engagé en février 2018 à l'occasion d'un déplacement en Tunisie. Le chef de l'État Emmanuel Macron concrétise aujourd'hui son sommet des deux rives. Une réunion internationale organisée à Marseille avec 5 pays de la rive nord de la Méditerranée, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, Malte et donc la France, ainsi que 5 pays de la rive sud, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Les ministres des Affaires étrangères sont présents à Marseille. Ce matin, les sociétés civiles de ces 10 pays viendront présenter un agenda positif pour lancer une dynamique de coopération. De quoi s'agit-il, Anne Fauquemberg ?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 5 forums préparatoires à cette réunion de Marseille sur les énergies, l'environnement, l'économie, la jeunesse ou encore la culture. Des forums qui ont eu lieu dans 5 pays différents et qui ont réuni environ 200 participants issus des secteurs associatifs, de la recherche ou encore de l'entreprise. Ces rencontres, elles ont permis de faire émerger 200 propositions et ce sont les meilleures idées qui seront présentées ce matin au président Macron. Il est question d'un réseau d'entreprises d'insertion pour les jeunes ou encore d'un projet d'investissement pour développer les nouvelles technologies dans les médinas maghrébines, des projets coordonnés par la prix Nobel de la paix 2015, la tunisienne Widad Bouchamaoui. Une initiative qui n'est toutefois pas dénuée de critiques. Jean-Paul Chagnolo, par exemple, avec son institut de recherche, l'IREMO, il a participé au forum sur la culture à Montpellier. Il relève une absence de ligne directrice. Le point faible de cette logique projet, explique-t-il, c'est la disparition d'une pensée sur la Méditerranée, avec en toile de fond, sur le plan diplomatique, les de la France et de l'Union européenne dans les grands conflits du temps.
La Méditerranée intime et historique des présidents français, c'est un article que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Ce sommet des deux rives, sommet positif donc, lors duquel il ne sera pas question de la crise migratoire, sujet pourtant commun et central pour les pays qui bordent la Méditerranée. Comme un écho à cette question, un procès s'ouvre aujourd'hui en Italie, procès d'officiers italiens poursuivis pour un naufrage d'une ampleur terrifiante. Le 11 octobre 2013, une embarcation coulait au large de l'île de Lampedusa avec des familles syriennes à son bord. Il y a eu 268 morts, dont une soixantaine d'enfants, Mathilde Imberti.
Le navire de la marine italienne qui peut intervenir ce jour-là ne bouge pas. D'après la reconstitution réalisée par l'hebdomadaire italien L'Espresso, il reste 5 heures sans recevoir d'ordre du centre de commandement à Rome. Pourtant, les autorités maltaises insistent au téléphone. Le patrouilleur tricolore est le plus proche de l'embarcation en détresse.
Call Malta, call Malta.
En réponse, les Italiens renvoient eux vers Malte, tandis que les migrants, voyant l'eau monter, lancent des appels désespérés. On est en train de couler, faites quelque chose, on va mourir. Cette voix est celle de Mohamed Jamo, un médecin syrien qui fuyait la guerre avec sa famille et a vu 2 de ses enfants se noyer. Il souhaite se porter partie civile aujourd'hui dans le procès. Après ce naufrage qui remonte à 2013, l'opération Mare Nostrum a été mise en place et les gardes-côtes italiens sauveront des centaines de milliers de personnes en se sentant bien seules dans cette entreprise.
Mathilde Imberti, depuis Rome pour France Culture. Il est 6h36 sur France Culture. Elle s'adresse aujourd'hui autant aux citoyens sans papier qu'aux Français les plus pauvres et aux travailleurs pauvres. L'association Emmaüs fête ses 70 ans. Elle organisait hier un grand salon, porte de Versailles à Paris. Julio de la Granja était président d'Emmaüs Europe de 2008 à 2016. Et pour lui, dit-il, la lutte contre la pauvreté est plus que jamais d'actualité.
On pense que parce qu'on est déjà au 21e siècle et pas au 20e siècle, que la pauvreté est moins importante. Eh bien, ça, ce n'est pas vrai. Depuis les 40 ans que je suis à Emmaüs, mon constat personnel, c'est que non seulement la pauvreté continue, mais je dirais même elle augmente. Il y a 40 ans, vous ne trouvez pratiquement pas de travailleurs pauvres. Donc, les travailleurs, celui qui avait un emploi, il n'était pas riche, mais il n'était pas pauvre non plus. Donc, il savait mener sa vie plus ou moins d'une façon convenable. Aujourd'hui, notre constat, c'est que non seulement il y a une détresse au niveau des difficultés économiques, au niveau des sans-papiers, mais il y a aussi des couches des populations des pays en question qui n'arrivent pas à joindre les débuts et qui sont en difficulté. Et c'est une question à ça, vous l'avez très clairement en France avec les gilets jaunes. Donc, c'est des gens qui en ont ras-le-bol, qui n'arrivent pas à fin du mois, qui expriment parfois d'une façon violente, évidemment, nous à Emmaüs, on est tout à fait contre ça, mais parfois d'une façon responsable qui exprime les ras-le-bol parce qu'à un certain moment, bon, il faut arriver quand même à un minimum vital pour pouvoir continuer à vivre.
Des propos recueillis au salon d'Emmaüs hier à Paris, propos recueillis par Bastien Roch. La cour d'appel de Paris pouvait-elle ordonner la reprise des traitements de Vincent Lambert le 20 mai dernier? La cour de cassation examine aujourd'hui cette question juridique déterminante pour l'avenir de ce patient tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans maintenant. La cour de cassation se réunit à partir de 14h en assemblée plénière. Les hôpitaux auraient pu s'en passer. Après 3 mois de grève aux urgences, la canicule va mobiliser les personnels. Les températures vont dépasser 30 degrés cette semaine, du centre jusqu'à l'est de la France. Face au manque dans les services, on s'organise tout de même comme on peut. C'est un reportage de Véronique Julia.
Annick est infirmière dans un grand hôpital parisien. Elle affirme qu'elle est prête pour cet épisode de canicule. Celle de 2003 nous avait pris de court. Maintenant, dit-elle, on sait faire, mais avec les moyens du bord.
Évidemment, il n'y aura pas assez de ventilateurs. On ne pourra pas en mettre un par chambre. On va mettre des ventilateurs dans les couloirs. Ceux qui peuvent sortir de leur chambre, on pourra mettre des chaises ou des fauteuils dans le couloir. Mettre des draps mouillés devant le ventilateur pour faire un peu plus d'humidité. Mettre des draps glacés au congélateur.
Qu'est-ce qu'on fait avec les draps congelés?
On les pose sur les patients, ça les refroidit.
La climatisation, il y en a dans certains services, mais c'est loin d'être systématique, d'autant que la climatisation est techniquement compliquée à installer dans un hôpital et nécessite une maintenance coûteuse. Dans cet autre hôpital parisien, Aïcha, infirmière, elle aussi s'inquiète pour la semaine à venir. Dans le bâtiment le plus ancien de son hôpital, elle redoute que certaines chambres, dans les prochains jours, deviennent de vraies fournaises.
Dans les anciens bâtiments, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, elles sont toutes condamnées sous décision du directeur général suite à un suicide d'un patient. Il y a aussi tout ce qui est volets roulants qui sont cassés, endommagés, voire inexistants.
Aïcha déplore aussi des fontaines à eau et des ventilateurs en nombre insuffisant. L'été dernier déjà, les personnels de cet hôpital s'étaient plaints d'un établissement sous-équipé pour la canicule, avec des chambres où la température atteignait les 35 degrés.
Et cette année donc, en ce mois de juin, les fortes chaleurs arrivent donc sur l'Hexagone à partir de ce lundi pour une semaine caniculaire, excepté en Bretagne. Paris et la Seine-et-Marne sont déjà placés en vigilance orange pour canicule. Les températures passeront la barre des 30 degrés à la mi-journée, de la Lorraine jusqu'au sud de l'Aquitaine en passant par la région Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Côté ciel, la pluie va tomber sur la Bretagne et sur une partie de la Normandie ce lundi. Partout ailleurs, ce sera éclairci et quelques nuages selon Météo France. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Une information n'a pas été donnée dans ce journal et voilà que je me rattrape. Les footballeuses de l'équipe de France ont gagné hier soir leur ticket pour les quarts de finale du Mondial en battant le Brésil 2-1 après prolongation. Et vous vous penchez dans votre journal des idées Jacques sur l'affluence dans les stades et sur les audiences télé. Le Mondial féminin de football semble avoir trouvé son public.
Eh oui, comme l'indique Clément Martel dans Le Monde, le pari des organisateurs de faire venir les familles au stade et gagner au-delà des attentes. Même chose pour les audiences télé. Si les Françaises battent record sur record et font s'agglutiner près de 10 millions de spectateurs à chaque match, d'autres rencontres cartonnent également. Italie-Brésil ou Argentine-Angleterre ont dépassé le million de téléspectateurs. Et c'est pareil à l'étranger. Pourtant, l'affichage de l'événement est quasiment inexistant, au point que des médias anglo-saxons s'en sont émus, étonnés de ne trouver dans le métro parisien que des affiches pour les rencontres des Bleus, qualification à l'Euro 2020 alors que le Mondial débutait. Ce n'est pas dans un souci de parité qu'il faut célébrer le foot au féminin, c'est parce qu'il incarne une forme de retour à l'essence même de ce sport. Dans le Figaro Vox, David Bruna célèbre les vertus footballistiques et éthiques du beau jeu de l'équipe des Bleus. L'écrivain et conseiller en communication estime qu'elle dame le pion à leurs homologues masculins sur le plan du fair play et de la bienséance. Contestation des décisions d'arbitrage, prise de bec avec les adversaires et punchline médiatique graveleuse ou imbécile, agent véreux à la manœuvre, affaire de mœurs à répétition, hooliganisme, banderole raciste dans les gradins. Dans tous ces domaines, le football pratiqué par les femmes confirme son avantage face au foot de bourrin et de rapine qui est trop souvent l'apanage des hommes, joueurs et spectateurs confondus. S'il est vrai que la pratique féminine du sport de haut niveau tend à se développer, les disciplines où la mixité est admise sont très rares et dans les cas où elle est la norme, comme en danse sportive ou en patinage artistique, les couples de même sexe ne sont pas autorisés, observe Antoine Leblanc de l'Université du Littoral Côte d'Opale, lequel ajoute que l'homophobie reste très présente dans le milieu sportif. En France, aucun athlète masculin de haut niveau en exercice n'a encore osé faire son coming out, contrairement aux États-Unis. La revue Carnet de Sciences publie un dossier sur le sport. Philippe Testard-Vaillant souligne qu'aujourd'hui, Près des deux tiers des Français âgés de 15 ans et plus s'adonnent de manière soutenue à une activité physique ou sportive au moins une fois par semaine, alors qu'ils n'étaient que 30% dans les années 1960. La revue du CNRS rappelle l'engagement de la recherche dans le domaine sportif, qu'il s'agisse de sport bien-être ou de haut niveau pour améliorer les performances des athlètes, des liens avec le développement durable, les questions de genre ou le regard porté sur le handicap. Le but est d'embrasser le sport dans toutes ses dimensions. Pardon, résume Vincent Nougier, directeur du groupement de recherche sur le sport et l'activité physique, tout récemment créé par le CNRS avec 1000 chercheurs dans 140 laboratoires impliquant également les universités, l'INSERM ou l'INRA. L'enjeu est de fédérer l'ensemble des acteurs et notamment les fédérations sportives et les industriels. L'interdisciplinarité est capitale, souligne le chercheur. Par exemple, si la biologie et la médecine recommandent d'avoir une activité physique régulière, la sociologie et la psychologie montrent que les Français décrochent en moyenne à 18 ans et qu'on peut lutter contre cette tendance en aménageant l'espace urbain avec des pistes cyclables. Le sport est un excellent miroir de notre société, de son fonctionnement, de son idéologie, de ses valeurs, de ses choix en matière de politique publique, de ses faiblesses, de ses dérives. Thierry Terret, délégué ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, souligne également que le sport moderne, qui a vu le jour dans les écoles de l'élite anglaise au milieu du 19e siècle, quand les enseignants ont transformé les concours de jeux de ballon brutaux et chaotiques en compétitions organisées pour discipliner les jeunes élèves turbulents, le sport occupe une place centrale dans notre société. Pour Marc Auger, la compétition sportive est un terrain anthropologique. Dans un texte inédit que viennent de publier les éditions Rivage sous le titre « Match retour », il revient sur la notion de revanche, commune au sport et à la politique. Elle privilégie une représentation du passé et une vision de l'avenir qu'elle mythifie toutes deux. Il est vrai que le sport est une expérience intense du temps. Depuis les calendriers serrés des compétitions jusqu'au temps des épreuves qui peuvent se résumer à des séquences extrêmement brèves, le sport repose sur une armature socio-temporelle, souligne Marc Auger. C'est là que s'infiltre le désir alpha et oméga de ce culte totémique moderne. L'anthropologue se réfère à ce que Freud nous dit sur l'illusion religieuse où le sens ne s'ordonne qu'à la vérité du désir. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, donc la défaite de l'AKP à Istanbul.
Oui, et donc la victoire du candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, au municipal. Trois mois après un premier scrutin annulé, le nouveau revers pour les islamo-conservateurs de l'AKP, qui perd donc la capitale après 25 ans de domination et qui vacille peut-être au niveau national. Eh bien, on voit ça avec vous, Dorothée Schmidt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes bien sûr la responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI. Alors, le vote précédent, celui du 31 mars, avec 13 000 voix d'écart, avait été invalidé sur demande de l'AKP. Mais aujourd'hui, avec 54% des voix pour Ekrem İmamoğlu contre 45% pour Bin Ali Yildirim, les Stambouliotes confirment leur préférence pour l'ancien maire de quartier face au cadre de l'AKP. Et même Dorothée Schmidt, 800 000 voix d'écart, c'est quand même une progression très importante par rapport au dernier scrutin. Comment vous l'expliquez ?
Oui, alors évidemment, c'est extrêmement impressionnant puisque une des raisons pour lesquelles l'AKP avait contesté le précédent scrutin, c'est précisément que l'écart de voix était très faible et que donc on pouvait considérer que les irrégularités du scrutin, les irrégularités techniques permettaient de demander un nouveau comptage. Là, ce qui est très clair, c'est que les électeurs stambouliotes ont sanctionné Erdogan et évidemment son candidat, mais c'est bien le président qui est visé au travers de ce nouveau résultat. Ils l'ont sanctionné notamment d'avoir précisément demandé un nouveau scrutin. C'est-à-dire que c'est l'enjeu démocratique aujourd'hui qui a fait la différence certainement à Istanbul.
Alors on va reparler des raisons de cette progression. Peut-être juste sur la réaction à la fois du président Erdogan et de Bin Ali Yildirim. Les deux ont félicité Ekrem İmamoğlu. Est-ce que ça veut dire que l'AKP en quelque sorte fait profil bas puisque c'était aussi un test pour lui de son respect de la démocratie?
Alors disons que les sondages de toute façon donnaient une très forte avance au candidat de l'opposition depuis le début. Donc il était probable que l'AKP avait quand même anticipé cette défaite et considéré qu'İmamoğlu allait gagner. Moi ce que je trouve très intéressant c'est la déclaration du nouveau maire qui a précisé qu'il considérait que sa victoire était un nouveau début pour la Turquie. Donc c'est quand même une ambition qui est bien au-delà d'Istanbul, bon, sachant qu'Istanbul, c'est déjà une ville énorme, on sait que c'est la moitié du PNB turc, il y avait un électorat de 10 millions d'habitants qui était appelé à se prononcer, donc c'est une victoire qui est extrêmement importante, pas simplement du point de vue symbolique, mais du point de vue quantitatif. Et surtout, aujourd'hui, on a une nouvelle figure politique qui pourrait s'opposer à Erdogan à l'avenir dans d'autres contextes. Oui, dans d'autres élections.
De la même manière, il a dit İmamoğlu hier, Monsieur le Président Erdogan, je suis prêt à travailler en harmonie avec vous. Ça va dans le sens de ce que vous dites, effectivement, qui se pose en rival pour 2023. Simplement sur Istanbul, encore une fois, comment est-ce que vous l'interpréteriez? Donc c'est quand même immense ville, 16 millions d'habitants, 11 millions d'électeurs, 20% du PIB, dans laquelle İmamoğlu avait été un maire de quartier plutôt très apprécié. Est-ce que c'est plutôt la confirmation du choix national du 31 mars, 45% au niveau national pour l'AKP et la perte des grandes villes, ou l'injustice qui a été faite à İmamoğlu lors du scrutin et qui semble avoir quand même mobilisé les électeurs?
C'est évidemment ces deux choses à la fois. Et puis, c'est cette politique d'alliance assez astucieuse qu'a eu İmamoğlu, puisqu'il est à la fois allié au bon parti, qui est ce nouveau parti qui a fait des fictions par rapport aux nationalistes qui sont les élus d'Erdogan. Et puis, il a eu le soutien des Kurdes du HDP, de ce parti de gauche, même si au dernier moment, Abdullah Öcalan, qui est le chef historique de la contestation kurde, a appelé depuis sa prison à s'abstenir. Et en réalité, les électeurs kurdes, qui sont très nombreux à Istanbul, sont vraisemblablement allés voter également pour İmamoğlu. Donc, on a quand même un vote qui est un vrai vote composite, qui démontre que beaucoup de parties différentes de la société turque souhaitaient cette alternance. Il est probable qu'il y ait une partie de l'électorat de l'AKP aussi qui s'est détournée en réalité du vote de Bin Ali Yildirim.
Alors c'est intéressant que vous parliez de l'appel de Çalan, effectivement, qui demandait aux Kurdes de rester neutres. Hein, le 21, il a fait cet appel-là, parce que ça nous permet de rentrer dans la campagne où on voyait par exemple que İmamoğlu, lui, allait voir par exemple les Bosniaques d'Istanbul, qui lançait son fameux slogan « Tout aura une bonne fin » ou « Tout finira bien » dans leur propre langue, qui disait que son premier voyage serait dans les Balkans. Et à contrario, on avait un peu l'impression que l'AKP était à court d'arguments, même s'il y a eu un débat entre Yildirim et İmamoğlu. Et puis surtout, c'était les paroles de Erdogan en disant « Maintenant, le choix, ça va être entre Sisi, c'est-à-dire İmamoğlu, ou bien Yildirim. » C'était un peu excessif.
Alors, ce que vous décrivez dans la campagne, ça montre que İmamoğlu a appris de l'AKP. C'est-à-dire qu'il est allé chercher des votes communautaires. Le fait de parler dans leur langue aux minorités, ça c'est quelque chose que Erdogan pratique depuis 15 ans. Et inversement, l'AKP effectivement était un peu à bout d'innovation, je dirais, dans cette campagne. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on sait quand même que les votations, c'est ce qui fait le succès de l'AKP et l'argumentaire démocratique d'Erdogan repose entièrement sur l'idée qu'il est capable de gagner toutes les élections, les référendums, etc. Et là, aujourd'hui, il trouve quelqu'un qui, du point de vue de la technique électorale, a réussi à le dépasser parce que son grand avantage, c'est qu'il s'est présenté comme consensuel et qu'il a évité la confrontation avec Erdogan. Ça, c'est très important. On avait d'un côté l'AKP qui apparaissait comme finalement un parti un peu en bout de course, avec un Erdogan qui apparaît toujours comme étant le candidat, même si c'est pas lui le candidat, et qui continue d'être extrêmement vindicatif et qui effectivement a accusé İmamoğlu d'être à la fois Sisi, un suppôt de Fethullah Gulen, un terroriste, un partisan des Kurdes, etc.
Oui, ouais, donc il y a cet aspect campagne, comme vous dites, qui est peut-être symptomatique. Et puis concernant la gestion d'Istanbul, est-ce que, d'une certaine manière, Bildirim ne la paye pas aussi, cette gestion de l'AKP, qui a été beaucoup, beaucoup dénoncée par Imamoglu lors de sa campagne, en disant finalement, Istanbul, en gros, c'est la ville de la corruption, eu égard à la question de l'attribution des marchés publics, ce qu'on appelle le monopole des 31. Là.
Alors ça, c'est vrai que pour les opposants et les analystes qui attendaient une alternance, on a beaucoup parlé de la corruption. On a dit que d'ailleurs, le fait de convoquer un nouveau scrutin, c'était peut-être pour l'AKP tout simplement un moyen de se donner le temps de nettoyer les comptes et de faire disparaître toutes sortes de preuves de corruption des dossiers à Istanbul. En tout cas, n'oubliez pas qu'Istanbul, c'est la ville d'où est partie la contestation de Gezi en 2013. Donc c'est quand même une ville qui a déjà montré dans le passé qu'elle avait envie de d'autre chose du point de vue de la gestion municipale, y compris sur ces questions de corruption immobilière, d'attribution de marchés publics. Et puis, Imamoglu a été le maire d'un petit district d'Istanbul, donc on dit beaucoup qu'il a contribué à le changer en bien, qu'il en a fait une espèce de modèle, de vitrine de ce que pourrait être une ville de l'avenir qui est plus écologiste, plus soucieuse des citoyens, de leur bien-être au quotidien, etc.
Oui, avec entre autres 600 000 mètres carrés d'espace vert créé pendant son mandat. Alors maintenant, au niveau national, à quel point est-ce que ça vous semble transposable, même si là, on arrive dans 4 ans, en 2023, ce score, et notamment cette fameuse alliance dont vous parliez, ADP, CHP, et puis le Bon Parti, qui est un parti nationaliste, on peut le dire comme ça. Oui.
Bon, l'important du point de vue de l'équilibre du paysage politique en Turquie, c'est qu'on a une opposition qui a réussi à relever la tête et à s'organiser pour la première fois depuis extrêmement longtemps. Alors, est-ce que cette alliance va tenir? J'en sais rien, mais ce qu'il faut voir, c'est que Imamoglu, c'est une nouvelle figure au sein du CHP, donc ce parti kémaliste traditionnel, qui pourrait peut-être montrer la voie, enfin, la réforme de ce parti que tout le monde attend depuis très longtemps. On ne sait pas trop sûr que le EYİ Parti aura un avenir. Le ADP, donc ce parti pro-kurde, il est mis dans un état absolument lamentable par toutes les persécutions que subissent ses membres de la part de l'AKP au niveau national. Donc finalement aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le CHP va enfin se réformer et devenir un parti qui pourrait tenir la route face à l'AKP, alors que l'AKP lui-même aujourd'hui connaît des dissensions en interne, qu'Erdogan est très contesté et que lorsqu'il a décidé de rejouer cette élection à Istanbul, des voix de personnalités très fortes au sein de l'AKP, je pense évidemment à Abdullah Gül ou Ahmet Davutoğlu, donc ancien Premier ministre et ancien président de la République, ont beaucoup critiqué cette décision.
Oui, donc il y aura beaucoup, disons, d'enjeux intérieurs. Est-ce que, disons, alors le plan international, ça peut aider le président Erdogan à se représidentialiser et à représidentialiser l'AKP pour les prochaines élections, sachant que là, il y a des difficultés quand même assez importantes, ne serait-ce que sur Idlib en ce moment pour la Turquie?
Oui, alors à mon avis, ça c'est plutôt quelque chose qui risque de compliquer beaucoup la vie à Erdogan. C'est qu'effectivement, Imamoglu va pouvoir se concentrer sur Istanbul et sur la gestion d'Istanbul et qu'il n'aura pas à régler la crise syrienne, la relation qui est tout à fait détestable avec les États-Unis aujourd'hui, avec ce fameux choix d'équiper l'armée turque de missiles russes. Donc toute une série de dossiers qui finalement plombent totalement la perspective pour Tayyip Erdogan au niveau national.
Oui, c'est ça, avec l'ultimatum au 1er juillet pour ces fameux S-400. Bah, écoutez, on en reparlera, mais merci beaucoup pour toutes ces explications aujourd'hui, Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le Marathon des mots. L'Amérique vous donne rendez-vous à Toulouse. Pour sa 15e édition, le Festival international de littérature accueille une trentaine d'écrivains américains pour raconter un demi-siècle de littérature, avec pour grande invitée Maggie Nelson, l'auteur des Argonautes. Au programme, des lectures, des rencontres, des projections et des concerts, sans oublier des hommages à Joan Didion, James Baldwin et Philip Ross. Le Marathon des mots, du 25 au 30 juin à Toulouse. Un partenariat France Culture.
Et le marathon continue un petit peu en avance. On arrive vers 6h57 sur France Culture pour les matins de Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Mais bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et alors je vais vous informer, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la canicule.
Absolument, et on a eu chaud, on a failli ne pas avoir grand chose à se mettre sous la dent. Donald Trump qui refuse de faire la guerre à l'Iran, les gilets jaunes qui commencent à dater, alors Heureusement, il y a cette canicule. Une canicule que les médias ont décidé ce week-end de traiter en préquel, comme on dit en québécois, autrement dit avant qu'elle n'arrive, en organisant une sorte de ruée vers les climatiseurs. Courez, achetez un climatiseur, ça a au moins deux intérêts. Premier intérêt, avoir frais. Deuxième intérêt, vous contribuerez à réchauffer un peu plus l'atmosphère, si bien que la prochaine canicule sera encore plus forte que celle-ci, histoire de vérifier une fois de plus la fameuse règle de Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, des causes de l'air conditionné à l'effet de la canicule. Alors, vous allez me dire, Xavier, que tout ceci a un air de déjà-vu parce que, malgré tout, chaque été, il a tendance à faire chaud, et ça risque de durer. On avait beau user tous nos qualificatifs, hein. Chaleur étouffante, chaleur écrasante, chaleur stigmatisante, bref, on tournait un peu en rond quand est arrivée la température ressentie. Température ressentie, le mot est apparu sur le chemin de Damas de l'information. On avait l'habitude de ce mot en hiver, mais jamais en été. Enfin, une première dans cet océan de sueur, cela est arrivé dans une alerte de BFM, déjà en spéciale transpiration, 48 degrés de température ressentie. J'imagine même qu'on peut ressentir plus hein, si on s'allonge en plein soleil, au besoin en enfilant un petit col roulé, mais Dieu qu'elle est belle, cette invention, la température ressentie. Sur le plan météorologique, il faut dire la vérité, ça n'a probablement aucun intérêt. En revanche, du point de vue sociologique, c'est absolument passionnant. Les températures ressenties permettent au thermomètre de basculer dans la subjectivité, de la même façon qu'on a eu la sécurité ressentie, la pauvreté ressentie. Votre pouvoir d'achat ne fait qu'augmenter, mais hélas, vous ne le ressentez pas. Voici maintenant la canicule ressentie. Ce n'est plus un fait, une opinion, ni même un avis, c'est un ressenti. Alors, peut-être se trouvera-t-il quelqu'un, quelque part, un météorologue nietzschéen pour dénoncer que l'homme soit devenu une créature du ressenti. Bah oui, vous savez, Nietzsche avait au moins une certitude, il faut lutter contre le ressenti, puisque le ressenti ment.
Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Tout autre chose à la une de la presse PMA, GPA, une réforme à venir et puis Vincent Lambert, une fois de plus au cœur de l'actualité avec la question de l'euthanasie. Deux titres donc qui sont à la une des médias ce matin, deux titres qui interrogent les valeurs des Français. Et justement, sort une enquête absolument remarquable. Nous recevrons deux des participants à cette enquête sur les valeurs des Français, Pierre Bréchon, professeur émérite de sciences politiques à l'IEP de Grenoble, et Bruno Cotresse, chercheur au CNRS. Ils seront nos invités aux environs de 7h40. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.